Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Zorro.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Si je vous dis Walt Disney, il y a immédiatement des titres qui vous viennent à l'esprit et qui sont associés à l'homme Walt Disney. Mickey, Donald, Goofy, Minnie, Blanche-Neige et les Sept Nains, le premier long-métrage en animation de toute l'histoire du cinéma, Dumbo, Fantasia, Pinocchio et Mary Poppins. Et puis en deuxième lieu, Disney est synonyme d'empire du divertissement, avec Marvel et Star Wars, et aussi synonyme de parc d'attractions. Mais pas réellement de série télé. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de citer Walt Disney comme quelqu'un qui a été aussi un précurseur dans le domaine des séries et qui a aussi créé la seule série télé qui soit encore toujours rediffusée en France depuis 60 ans. Incroyable, hein ? Mais si, en fait, Walt Disney, précurseur dans le monde des séries télé. Je vous demande de faire avec moi un retour en arrière, un back to the passé. Nous sommes à l'aube de l'explosion de la télévision, une époque où le cinéma et la radio sont encore les médias les plus prisés du public. Mais petit à petit, les programmes de la télévision américaine, jeux, variétés ou dramatiques en direct, gagnent en popularité. Alors que l'industrie du cinéma voyait le petit écran comme un redoutable ennemi qu'il fallait détruire au plus vite, Walt Disney pensa plutôt, lui, qu'il était beaucoup plus intelligent de se rallier à la cause de la télévision, d'être avec lui et pas contre lui, sans condescendance ni mépris, mais un petit peu par opportunisme. Avant l'arrivée de Disney à la télévision, les grands studios de cinéma, les Warner, les Universal et autres, étaient les ennemis jurés de la télévision. Non seulement ils refusaient de produire quoi que ce soit pour les nouveaux médias, mais pire, ils refusaient à la télévision la possibilité d'acquérir quoi que ce soit et quel que soit le prix. Par exemple, pas question de vendre les films pour les diffuser à la télé américaine. Avant la décision de Walt Disney, produire des séries télé spectaculaires et de qualité était tout simplement impossible. À ce titre, la vision de Disney, désireux d'embrasser ce nouveau média et surtout prêt à y produire des programmes avec le même soin qu'il mettait à produire ses longs métrages, fut le grand coup nécessaire pour toute l'industrie et changea ainsi, et je pèse mes mots, la face de la télévision et des séries de télé. Il s'avère que, en ce début des années 50, Walt Disney travaille sur un de ses projets les plus ambitieux, la création d'un parc d'amusement à thème, le premier du genre. Mais malgré ses succès cinématographiques, le financement de Disneyland s'avère être un véritable cauchemar. En tout cas, très très compliqué. Pour tenter de trouver les fonds, Walt et Roy Disney se tournent donc vers ce nouveau média redouté par les autres grosses compagnies cinématographiques. Et leur calcul est simple. Si une grande chaîne, bon un network quoi, pouvait offrir un contrat d'envergure, Disney produirait pour la télévision une série hebdomadaire composée des éléments les plus attractifs de sa filmothèque de titres et d'épisodes entièrement inédits, produits spécialement pour la télévision, bénéficiant donc du savoir-faire de son équipe, des studios, de toute son infrastructure, de tout ce qui est à sa disposition. Donc c'était avant tout un choix financier et, comme je vous l'ai dit, opportuniste. Hein, parce que Disney était conscient aussi que c'était son image de marque qu'il cédait. Il ne fallait pas qu'elle soit galvaudée dans des fictions un peu fauchées de piètre qualité. Il vendait du rêve. Il fallait que ça soit donc à la hauteur. En 1954, Walt Disney lance donc une série, Disneyland. Puis le monde merveilleux de la couleur et enfin le monde merveilleux de Disney. Oui, la série a changé de titre. La série resta des décennies entières à l'antenne, sous une forme ou sous une autre. En 2007, il y avait toujours ce même programme en prime time sur la chaîne ABC. Et c'était en 1954 donc la première grande collaboration entre un studio de cinéma, une Majors, et une chaîne de télévision. Ensuite, c'est Warner qui sauta le pas petit à petit. Toutes les Majors compagnies créèrent leur département en télé dans le but de produire des séries. Si aujourd'hui les grands studios comme Fox, Universal ou Sony produisent des séries, ben c'est en partie parce que Walt Disney a été précurseur, a été le premier. La série télé que Disney a lancée en 1954 était une anthologie. Donc ça veut dire que c'était une série dont les épisodes étaient différents les uns des autres. Mais tous étaient présentés par Walt Disney lui-même. Oui, parce que c'était l'époque dans laquelle les anthologies avaient toujours des présentateurs. Vous vous souvenez sûrement de Rod Serling qui nous présentait la quatrième dimension. Et ben là, Walt Disney présentait, toutes les semaines, le nouvel épisode de Disneyland. Il s'agissait quelquefois de films issus du catalogue de Disney, comme Dumbo ou Alice au Pays des Merveilles. Quelquefois, il s'agissait de documentaires sur l'espace, la nature ou les animaux. Et puis les séries qui revenaient irrégulièrement plusieurs fois durant la saison. Et dès la première saison de Disneyland, Disney se lança dans une véritable mini-série, c'est-à-dire une production bouclée en quelques épisodes, avec un début et une fin. Une production qui raconte en 3 épisodes la légende de David Crockett. Les exploits du célèbre trappeur qui avait inspiré toute l'Amérique et qui constituait un véritable sujet en or, parce que ça faisait résonner l'histoire de tout le peuple américain. David Crockett avait ouvert des territoires inconnus, lutté contre les Indiens, s'était fait entendre au Congrès, puis était mort après 14 jours du siège de Fort Alamo. C'était donc un sujet en or et c'est l'acteur Fess Parker qui décrocha le rôle. Et d'ailleurs en France, il fut rebaptisé Fier Parker parce que le prénom Fess en France, ça pouvait donner lieu à quelques remarques désobligeantes. L'acteur n'était pas un inconnu, il avait été remarqué par Walt Disney pour son rôle dans un film de science-fiction, Them, des monstres attaquent la ville. Et Fess Parker, on l'avait rencontré. Il nous avait raconté ses débuts avec Disney. Il s'intéressait au film Them parce qu'il était un petit peu révolutionnaire. Les fourmis géantes étaient réellement des mécaniques géantes et pas des miniatures sur un ordinateur. Le film était plutôt bien. Et Disney est resté assez longtemps pour apercevoir la scène où j'étais. Je me suis souvent dit que s'il avait eu un appel téléphonique, ou s'il avait éternué à ce moment-là, ou s'il avait été interrompu, nous n'aurions pas cette conversation actuellement. Ça a complètement changé ma vie. Je ne m'y attendais pas, mais personne n'avait prévu ça. Disney remplissait une obligation contractuelle. Mais je pense que ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que, à la fois, sa vision et sa façon de faire les choses étaient exactement ce que les gens espéraient trouver. Avoir accès à une production Disney de façon plus facile.
For a greater access to Walt Disney's products. And so he just happened to choose.
Il a choisi Davy Crockett. Ça aurait pu être John Appleseed ou Daniel Boone ou Zorro. Tous ces titres étaient envisagés pour être les premiers à être adaptés dans le programme télé. Cet heureux hasard a joué un grand rôle pour Disney et pour tous ceux qui ont été rattachés à cette opportunité.
With his opportunity. Davy
Crockett. 3 épisodes de David Crockett furent donc tournés pour retracer la vie du personnage. Des épisodes débordants d'action, foisonnant de paysages splendides, parce qu'ils étaient tournés dans le Tennessee et dans le Great Smoky Mountain, par exemple. Des épisodes jalonnés de moments héroïques, tels la bataille de Fort Alamo, avec quelques 200 figurants issus de tribus indiennes. Et durant ces 3 épisodes, il y avait une chanson d'accompagnement, la ballade de Davy Crockett. Elle revenait régulièrement pendant les épisodes, chaque couplet retraçant une partie de la saga. C'est George Bruns, le compositeur des chansons de La Belle au Bois Dormant, qui écrivit cette chanson, et c'est le scénariste de la série, Tom Blackburn, qui écrivit les couplets, plus de 120 couplets, alors que d'ailleurs il n'avait strictement aucune expérience dans le domaine de la chanson. Pour un coup d'essai, ce fut littéralement un coup de maître. La chanson, la ballade de Davy Crockett, était sortie alors que la série n'était même pas encore diffusée. Et immédiatement, la chanson se classa au sommet des hit-parades. Elle y resta 6 mois durant. La chanson, la ballade de Davy Crockett, se vendit quelques 7 millions d'exemplaires durant cette même période de 6 mois. Davy Crockett, leading the pioneer. Les 3 épisodes donc de Davy Crockett, diffusés dans le cadre de l'anthologie de Walt Disney, sont diffusés en décembre, en janvier, puis en février. Et le succès de ces 3 épisodes fut totalement inattendu et totalement massif. L'Amérique tout entière tomba sous le charme et Crockett devint une mode nationale. Les enfants dans la rue portaient la toque du héros avec la queue de castor. La chanson était donc classée au hit parade. Les 3 épisodes furent réunis pour une triomphale sortie en salle de cinéma à travers le monde. On estime que, écoutez bien, 90 millions de spectateurs virent la série. Donc les débuts de Disney à la télévision étaient devenus légendaires. Et si vous voulez avoir une preuve de cet engouement des États-Unis pour Davy Crockett à l'époque, eh bien, regardez Retour vers le futur. Et oui, parce que quand Marty arrive dans le passé, vous allez voir, il y a eu une allusion à Davy Crockett et au fait que tous les enfants de l'époque portaient la fameuse toque. Pris de court par ce véritable phénomène national, Disney et ses producteurs étaient cependant bien ennuyés. Pour respecter la réalité historique, leur héros mourait dans le troisième et dernier épisode. Ben oui, je vous avais dit, c'était une mini-série avec un début et une fin, quoi. Donc, lors de la prise du fort à l'Alamo, Davy Crockett, il meurt. Malgré cela, le phénomène ne s'estompait pas. Tant et si bien que la saison suivante, deux nouveaux épisodes ont été tournés, censés se dérouler avant la mort du personnage. Et ensuite, après avoir été Davy Crockett 5 fois, Fess Parker, l'acteur, deviendra Daniel Boone, le trappeur, dans une série régulière qui, elle, durera de 1964 à 1970. Après le succès phénoménal de Davy Crockett, Disney se mit à produire, pour son anthologie, d'autres sagas d'aventure, de cap et d'épée ou d'historique. Il y a eu par exemple l'épouvantail de Romney Marsh, c'était avec Patrick McGowan. Il y a eu Gallagher, il y a eu le Swamp Fox, le renard des marais, alias le général révolutionnaire américain Francis Marion, qui combattit les troupes anglaises depuis les marais de Caroline du Sud. Et l'interprète de cette saga n'est nul autre que Leslie Nielsen. Oui, le Leslie Nielsen, mais bien avant de devenir l'inénarrable Frank Darabin de Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion ? Je vais d'ailleurs le laisser nous présenter son personnage et chanter la chanson du générique début, parce que là, c'était bien lui qui chantait la chanson.
My name is Francis Marion. I fought the British Redcoats in 76, hiding in the Carolina swamps by day and surprising them with swift strikes at night. They called me a tricky swamp fox. So a swamp fox I became.
Swamp fox, tail on his hat. Nobody knows where the swamp fox at. Swamp fox, hiding in the glen. He runs away to fight again.
I fire a gun, the birds take wing. Their startled cries a signal clear. My men march forth to fight the king and leave behind their loved ones dear.
Swamp fox, tail on his hat.
Walt Disney présente Zorro.
Parce qu'il avait besoin d'investir encore plus d'argent dans son parc d'attractions qui venait de naître et dont il souhaitait créer de nouveaux univers, Walt Disney proposa au network ABC, qui bénéficiait déjà donc de son anthologie à succès, une deuxième série. Cette fois, c'était un personnage régulier qui allait en être le héros. Zorro le Renard, un personnage créé par Johnston McCulley en 1919 à travers une histoire qui s'appelait The Curse of Capistrano. Une histoire qui sera suivie par quelques 65 autres, traduites en 26 langues, et donc qui totalisèrent quelques 500 millions d'ardents lecteurs. 500 millions de lecteurs. Ouais, ça laisse pantois. La création, Zorro donc, emprunte à des personnages comme le Shadow et le Mouron Rouge. Elle est adaptée au cinéma en 1920 avec Douglas Fairbanks dans un film muet, puis en 1940 avec un film qui reste carrément un chef-d'œuvre avec Tyrone Power dans le rôle principal. Donc Zorro était quand même un personnage iconique. Et dès 1950, Johnston McCulley avait envie de faire de son personnage le héros d'une série télé. Disney en acheta alors les droits, en commençant même à trouver des idées de scénario, à dessiner des costumes et même à acquérir des éléments de décor. Mais le projet ne se concrétisa pas. Il fallut attendre 1957, plus de 5 ans après avoir acquis les droits et le succès initial de la série anthologique, pour que le projet de série soit, au final, accepté par ABC. Et ce sans besoin de produire un pilote. Le nom de Walt Disney, au début, allait suffire.
From the world-famous Walt Disney Studios, the ABC Network proudly brings you... Zorro! The rich and colorful legend of early California comes to life. He rides the land and into your heart with bold and daring adventures.
Out of the night,
Walt Disney propose donc une série à mi-chemin entre le western, qui est très en vogue à l'époque à la télévision, et le film de cap et d'épée, avec un personnage masqué qui lutte contre l'oppression des habitants de Los Angeles au 19e siècle, alors que la Californie est encore sous domination espagnole. Don Diego a effectivement profité de son long séjour en Espagne pour parfaire son éducation et apprendre le maniement de l'épée. Il décide, en revenant à Los Angeles, de prétendre être un jeune oisif peureux pour mieux devenir la nuit durant le défenseur des bonnes causes, luttant contre l'oppresseur et devenant donc hors la loi aux yeux des autorités. Guy Williams, de son vrai nom Armando Joseph Catalano, décrocha le rôle de Don Diego de la Vega et de son alter ego Zorro. De nombreux autres acteurs ont été auditionnés avant lui, Hugo Bryan, Dennis Weaver, le McLeod de la télé, et même David Janssen, qui sera ensuite Richard Kimball, le fugitif. Dee Williams était un inconnu, qui végétait dans des petits rôles, et d'ailleurs, il envisageait d'abandonner la carrière d'acteur, parce que ça marchait vraiment pas, au moment où, boum, il décroche le rôle de Zorro. Pour ce rôle, il se met à gagner quelque 2 500 $ par semaine. Somme à laquelle s'ajoutaient les apparitions à Disneyland ou dans d'autres événements, comme des rodéos. Et pour les rodéos, il gagnait encore 2 500 $ de plus. Ainsi que 2,5% des bénéfices sur le merchandising à son image. Et quand on sait que ce merchandising a été gigantesque, on se dit qu'il a fait un bon calcul. Gene Sheldon, un acteur qui avait les talents de mime, devint Bernardo, le confident muet qui fait semblant d'être sourd. En réalité, Sheldon n'était ni sourd ni muet. Henry Calvin, de son vrai nom Wimberly Calvin Goodman, tient le rôle du sergent Garcia. L'acteur avait précédemment joué à Broadway et avait été même présentateur à la radio. Et enfin, pour parfaire la distribution, il y avait George Lewis, le père de la Vega, Don Alejandro. L'acteur, donc, George Lewis, avait déjà joué dans énormément de westerns télévisés, du Lone Ranger à Rintintin. Mais, plus étonnant, il fut aussi de la distribution d'énormément de séries cinématographiques des années 40. Oui, c'est l'ancêtre de la série télé. Des séries comme Captain America, Batman, G-Man contre Dragon Noir. Et c'est là où ça devient savoureux. Il a même été dans Zorro's Black Whip, un sérial de 1944 sur le personnage de Zorro. Bah oui. En 1955, on commença à ériger le décor où la série allait se dérouler. C'était au sein des studios Disney, tout était monté, donc le Los Angeles du 19e siècle. Le tout coûta 100 000 $. Avec des éléments de décor, on aboutit même à 208 000 $ rien que pour monter là où la série serait tournée. On avait bien retenu l'exemple de la balade de David Crockett et donc, pour assurer le succès de la série, la chanson était décisive, mais elle n'accéda pas au même succès que la balade de David Crockett. Elle fut tout de même mythique. Créée elle aussi par George Bruns et écrite par Norman Foster, elle fut interprétée par Henry Calvin, à savoir l'interprète du sergent Garcia lui-même, mais surtout aussi par les Cordettes, un groupe vocal.
Comes a horseman known as Zorro. This bold renegade carves the sea with his blade, a sea that stands for Zorro.
Par la suite, William Lava, lui, composa tous les thèmes musicaux des différents personnages que l'on entend dans la série. Zorro a un cheval noir, Tornado, puis au cours de la deuxième saison, un cheval blanc, Fantôme. Tornado, en fait, avait pour vrai nom Diamond Decorator. C'était un cheval qui avait 7 ans, il avait remporté 14 fois de suite le prix au Grand National. Il avait même pour la série 3 doublures, une pour les scènes où il devait se cabrer, une autre pour les poursuites à pleine vitesse, et la troisième pour les bagarres. Les affrontements à l'épée restent les scènes marquantes de la série, même encore de nos jours. Dee Williams avait de vrais talents d'escrimeur, ce qui a contribué à son engagement pour le rôle. Il avait sur sa série le même coach qui avait entraîné Douglas Fairbanks et Tyrone Powers. C'est vous dire. Williams racontait d'ailleurs, on se battait avec de vraies pointes, non mouchetées. Il s'agissait d'épées normales, mais avec un pommeau modifié pour plus de protection. Et pour balayer une idée reçue causée par les nombreuses diffusions en France dans le cadre des programmes jeunesse, Zorro n'était surtout pas une série spécialement pour les enfants. Mais c'était une série aux États-Unis de prime time. Elle était effectivement programmée le jeudi à 20h sur la chaîne ABC. Et les moyens étaient hallucinants. Écoutez bien, une série télé d'une heure à l'époque coûtait à peu près 13 000 $ l'épisode. Zorro, lui, coûtait, accrochez-vous, 82 000 $ pour chaque épisode. 82 000 $ Et les épisodes ne faisaient même pas une heure, ils faisaient une demi-heure. Zorro était le western télé le plus cher de l'époque. La première saison, à elle seule, coûta quelque 3 200 000 $. Disney était autant impliqué dans cette série qu'il l'était dans n'importe quel de ses longs-métrages. Il visionnait tous les rushs, tous les jours, il faisait même retourner des scènes qu'il jugeait mauvaises. La seule erreur de Disney fut de tourner la série en noir et blanc. Il ne sentait pas que la couleur allait s'imposer. La série commence à être diffusée. Et là, c'est un véritable carton. Elle réunit chaque semaine quelque 35 millions de téléspectateurs. Et en France, elle fit sensation dès janvier 1965. La deuxième saison de la série fait encore mieux, avec une part de marché de 38,9% de tous les Américains branchés sur leur télévision. La première saison, en 1957-1958, compte 39 épisodes d'octobre à juillet. Ça veut dire aucune interruption, un épisode à produire chaque semaine, un épisode diffusé toutes les semaines. Il fallait bien toute l'infrastructure et le savoir-faire d'un studio comme Disney pour y parvenir. Par la suite, d'ailleurs, dès les années 60 ou 70, les saisons de séries télé se composent plutôt de 24 ou de 25 épisodes, autant pour des raisons économiques que pour des raisons d'audience, parce qu'il y a moins de monde devant le petit écran à différentes périodes de l'année, comme les vacances d'été ou les fêtes de fin d'année par exemple. Aujourd'hui, 22 épisodes, ou même 12 pour certains diffuseurs, c'est bien le maximum. Donc, 39 épisodes pour l'année, ben, je vous laisse apprécier l'exploit. Hein. Les 13 premiers épisodes montrent la lutte de Zorro contre le commandant Monastorio, interprété par Britt Lemon. C'est un comédien qui s'est très bien entendu avec Guy Williams et qui, par la suite, a fait carrière de l'autre côté de la caméra en tant que directeur de production. Par exemple, on le retrouve sur ce poste, directeur de production, sur un film dont vous avez sûrement entendu parler, quelque part dans le temps, Somewhere in Time, avec Christopher Reeves et Jane Seymour. Une fois l'histoire du commandant Monastorio terminée, les épisodes suivants de cette première saison, les épisodes 14 à 39, ont un autre fil rouge, l'aigle, un conspirateur qui cherche à fomenter un coup d'État. Mais chaque épisode de cette deuxième partie de la saison reste totalement indépendant. Il y a des kidnappings, des vols, des méchants, des affrontements, bref. L'aigle, initialement, c'est un lien qui réunit tous ces bandits ensemble et qui est symbolisé par une plume d'aigle que Don Diego et Bernardo expliquent avoir trouvé sur le bandit de la semaine et dont ils parlent en conclusion de l'épisode. Ce fil rouge dure tout de même 26 épisodes, alors que l'aigle lui-même, le personnage, le conspirateur, n'apparaît que vers la fin de la saison, dans l'épisode Le Nœud se resserre. En fait, il s'agit de l'administrateur de la région, José Sebastián Varga, qui a choisi de s'installer dans l'Hacienda de la Vega. L'interprète de ce diabolique personnage, c'est Charles Corvin, un acteur qui, après avoir été sur la liste noire pendant 10 années suite à son refus de témoigner et de dénoncer des amis communistes, fit de nombreuses apparitions dans les dramatiques en direct à la télévision américaine, puis fut la vedette de la série policière anglaise Interpol Calling, qui, comme son titre l'indique, se déroulait au sein d'Interpol. Vous pouvez aussi le voir dans un rôle important dans la fameuse mini-série Holocaust, qui retraçait la déportation et l'extermination des Juifs par les nazis. Pour sa deuxième saison, la série n'a plus de fil rouge ou de grands ennemis comme l'aigle ou comme Monastorio, mais chaque épisode retrace une histoire différente. Mais on met en place systématiquement ce qui avait déjà été fait de façon plus sporadique la saison précédente, à savoir des cycles d'histoires qui couvrent 3 ou 4 épisodes avec à chaque fois un début et une fin. Il peut s'agir d'un étranger qui arrive à Monterey, oui, Monterey étant le nouveau lieu où se déroulent les histoires après Los Angeles, d'un politicien malfaisant, d'une jeune fille accusée à tort. Cela permet d'avoir des guests, comme George Romero ou Annette Funicello, pour un cycle d'épisodes donné. Et cela permet aussi, plus prosaïquement, de pouvoir tourner en cross-bordé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne tourne pas épisode par épisode, mais lieu par lieu pour plusieurs épisodes à la fois. Par exemple, on tourne toutes les scènes qui se déroulent dans le bureau, toutes les scènes qui se déroulent dans l'Hacienda, toutes les scènes en extérieur dans le décor de Monterey, toutes les scènes en tant que Zorro, etc., etc. Tout ça pour les 3 ou 4 épisodes de la même histoire. Au milieu de cette seconde saison de 39 épisodes, il y a un changement de taille. Don Alejandro découvre que son fils, Don Diego, est Zorro. Il deviendra donc son complice. Au fil des épisodes, Don Diego, en bon séducteur, va pousser la chansonnette. Ce qui rajoute à une bande-son déjà très soignée, où chaque personnage, je vous le rappelle, possède son propre thème. Parmi les réalisateurs habituels de la série, il faut en noter quelques-uns. Norman Foster, tout d'abord. C'est lui qui composa les paroles de la chanson du générique. Il dirigea des épisodes de Zorro et ensuite des épisodes du Frelon Vert avec Bruce Lee. Des années auparavant, il avait tourné toute une série de films avec le détective Mr. Moto, incarné par Peter Lorre. Charles Barton tourna presque tous les films d'Abbott et Costello avant de faire des Zorro. Un autre réalisateur, Hollingsworth Morse, qui participa à un nombre faramineux de séries, réalisa des épisodes de « Sheriff, fais-moi peur », de « L'homme qui tombe à pic », de « Lassie », de « Rocky Jones, Space Ranger », vous connaissez pas, c'est antique, hein, du « Lone Ranger », et même des épisodes de séries de super-héros télévisés pour enfants, comme « Shazam », « Captain Marvel » et « Isis ». Bon, ce type a une carrière proprement incroyable. Et enfin, il y a eu William Whitney, qui avant de travailler pour des séries télé comme Le Virginien ou Bonanza, et donc Zorro, fut le réalisateur phare des séries des années 40, avec des titres comme Les Aventures de Capitaine Marvel ou Le Mystérieux Docteur Satan. Donc je vous rappelle, le sérial, c'est assez peu connu en France, mais c'était l'ancêtre cinématographique de la série télé. C'était généralement 12 épisodes, un par semaine dans votre cinéma local. Le lien avec la série Zorro Disney est criant, puisqu'il s'agit d'aventures échevelées, pleines d'action, d'affrontements, avec des personnages héroïques qui vont, dans le cas de sérial, de Tarzan à Zorro justement, en passant par Superman, Flash Gordon ou Batman, tous issus de la culture populaire. William Whitney était donc parfaitement adapté pour réaliser des épisodes de Zorro.
See Zorro every week on ABC.
Si la série ne dépassa pas deux saisons, ce n'est pas du tout suite à une chute d'audience, mais un désaccord entre Disney et la chaîne ABC, qui trouva son issue devant les tribunaux et empêcha Disney de poursuivre l'histoire malgré des audiences proprement extraordinaires. En effet, ABC se réclamait de la paternité des séries de Disney et disait que Disney ne pouvait pas les revendre ni les poursuivre sur une chaîne concurrente. Le procès a donné raison à Disney et donc, un an plus tard, Zorro, avec tout son casting intact, parce qu'il était sous contrat, revient dans 4 épisodes spéciaux, des épisodes d'une durée d'une heure chacun cette fois, produits dans le cadre du programme Le Monde Merveilleux de Disney et diffusés au fil des mois durant la saison 1960-1961.
Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'à la surprise générale, Zorro était produit avec un tel soin et tellement intemporel qu'il a suffi de la coloriser pour que dès 1984, elle continue de séduire les Français et trouver un nouveau public, devenir culte donc, à travers les âges. Après la série, Guy Williams devint la vedette d'une autre série, une série de science-fiction très prometteuse, produite par Irwin Allen, Lost in Space. Il sera le père de la famille Robinson égaré sur une planète inhospitalière avec toute sa petite famille. Mais au bout d'une douzaine d'épisodes, la série change de ton pour se focaliser sur des personnages exubérants et sur le jeune fils de la famille. Williams ne faisait plus que de la figuration, il intervenait dans quelques scènes par épisode. C'était un peu le père de famille qui disait « Non, faut pas faire ça. Ah, mon Dieu, je m'inquiète. » Et puis rien d'autre. Donc, c'était pas vraiment la chose la plus géniale pour lui. En 1969, il refuse de participer à un revival de Zorro parce que c'était une comédie. Zorro et fils, Zorro and Sons. Ensuite, il s'établit en Argentine, un pays où il jouissait d'une colossale célébrité, plus spécifiquement à Buenos Aires. Il y est apparu dans des galas, quelquefois même avec son partenaire de la série, Henri Calvin. Disney, de son côté, lança d'autres séries, mais il eut moins de chance. Il y a eu Zorro and Sons, que l'on vient de mentionner, avec au final Henri Darrow de Chaparral comme vedette, et la série ne dura que 5 épisodes. C'est en 1983. Il y a même une version télé de Un amour de coccinelle. Ouais, une série, Herbie the Love Bug, en 1982. Bon, malgré la présence de Dean Jones en vedette, le même que dans les films, la version série télé de Un amour de coccinelle ne dura que 5 malheureux épisodes. Et en 1988, la très ambitieuse production de science-fiction Earth Star Voyager, en français Les Voyageurs de l'Infini, diffusée dans le cadre du Disney Sunday Movie, avec Duncan Reger, donc de la série V dans le rôle principal, demeure sans suite. Disney a eu plus de chance avec les séries animées qu'il a lancées par la suite, basées sur des personnages tels que DuckTales, la banque à Picsou, ou Tic et Tac, Ranger du risque. Quand Disney décida de confier la production de séries télé à son département Touchstone, créant ainsi Touchstone Télévision en 1985, les choses changèrent rapidement. Là, de nombreuses séries qui n'étaient pas directement labellisées Disney arrivèrent à l'antenne. Il y a eu par exemple Sidekicks avec l'ancienne star de Buck Rogers, Gilles Gérard. Il y a eu les Golden Girls, les craquantes avec Béatrice Arthur, entre autres. Il y a eu Papa Bricole. Et maintenant, on arrive avec toutes les séries qui sortent des studios ABC Disney, d'Alia à Grey's Anatomy, en passant par Esprit Criminel ou Once Upon a Time ou Les Agents du S.H.I.E.L.D. Et tout ça est parti d'un parc d'attractions qu'il fallait financer. Tout ça est parti du monde merveilleux de Disney et de Zorro. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.